Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakidze avec vous dans cette édition du jeudi 24 mars 2022. Au sommaire, le président Biden promet une réponse de l'OTAN si la Russie utilise des armes chimiques. Une cour ouest-africaine ordonne la suspension de sanctions contre le Mali. Au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès, parti de l'ex-président Roch Marc-Christian Caboret, exige sa libération immédiate. Au moins 48 morts dans une double attaque mercredi soir dans le centre de la Somalie et revendiquée par les Chebab. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le président américain Joe Biden a promis jeudi une réponse de l'OTAN en cas d'utilisation d'armes chimiques par le président russe Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. Nous répondrons s'il y a recours. La nature de la réponse dépendra de la nature de cette utilisation, a déclaré M. Biden à l'issue d'un sommet de l'OTAN et d'un G7 à Bruxelles. M. Biden s'est dit aussi favorable à l'exclusion de la Russie du G20, mais il a reconnu que cette décision dépendait des membres de cette instance internationale. Enfin, le président américain a exprimé l'espoir que la Chine n'aide pas la Russie à amortir l'impact des sanctions occidentales, estimant que l'avenir économique du géant asiatique était davantage lié à l'Occident qu'à son voisin russe. L'une des annonces fortes à l'issue de ce sommet extraordinaire de l'OTAN, l'Alliance Atlantique à Bruxelles, c'est la livraison à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires et la protection de ses forces déployées sur le flanc oriental. Le point avec Abdelrahman Dia.
Le secrétaire général Jens Stoltenberg a indiqué que les alliés sont préoccupés et sont convenus de fournir des équipements pour aider l'Ukraine à se protéger contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. L'OTAN dit aussi améliorer l'état de préparation des forces alliées dans le double objectif de soutenir l'Ukraine et de défendre ses membres. Les dirigeants de l'Alliance ont également approuvé la création de 4 nouveaux groupements tactiques en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie et en Slovaquie, et de renforcer les 4 déjà constitués en Pologne et dans les 3 pays baltes. Plus de 100 000 militaires américains sont actuellement présents en Europe et plus de 40 000 troupes sont sous commandement direct de l'OTAN dans la partie orientale de l'Alliance, a souligné Jens Stoltenberg. C'est du jamais vu, a déclaré Stoltenberg, dont le mandat a été prolongé d'un an. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait demandé une aide militaire sans restriction à l'OTAN. Par ailleurs, les États-Unis ont promis plus d'$1 milliard d'aide humanitaire supplémentaire et vont accueillir jusqu'à 100 000 réfugiés ukrainiens.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré mardi sur la chaîne CNN internationale que Moscou n'utilisera l'arme nucléaire en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie. Les pays du G7 ont assuré qu'ils ne ménageraient pas leur effort afin que le président russe Vladimir Poutine rende des comptes pour l'invasion de l'Ukraine, prévenant qu'il n'hésiterait pas à adopter de nouvelles sanctions. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé de nouvelles sanctions contre la Russie dans une démonstration d'unité des Occidentaux face à la guerre en Ukraine. L'Union européenne reste divisée sur l'opportunité de rompre tous ses liens énergétiques avec la Russie, l'Allemagne continuant de s'opposer à un embargo immédiat sur les hydrocarbures livrés par Moscou, dont elle dépend étroitement. La marine ukrainienne a affirmé avoir détruit un navire de transport de troupes russes ancré dans le port de Berdyansk, ville proche de Mariupol, sur la mer d'Azov. Le navire de transport de troupes Orsk a été détruit dans le port occupé de Berdyansk, a écrit la marine dans un message sur son compte Facebook, accompagné de 3 photos. Par ailleurs, Russes et Ukrainiens ont procédé aujourd'hui à des échanges de prisonniers, 10 de chaque côté, selon la vice-première ministre ukrainienne et la déléguée russe aux droits humains. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken se rendra en Israël, en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie du 26 au 30 mars, a annoncé le département d'État. Il évoquera notamment lors de cette tournée la guerre menée par le gouvernement russe en Ukraine, selon un communiqué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retour sur le continent africain. La Cour de justice de l'Union économique monétaire ouest-africaine a ordonné jeudi la suspension de sanctions prises en janvier par l'UEMOA contre le Mali. Dans le même temps, le colonel Assimi Goïta est invité demain au sommet de la CDAO à Accra. Le point avec Michel Joseph.
La Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, saisie par les avocats de l'État malien, a ordonné le sursis à exécution des sanctions décidées le 9 janvier par les chefs d'État de la CDAO. Cette décision ajoute une inconnue à la confrontation actuelle. Elle a été rendue à la veille du sommet extraordinaire de la CDAO sur le Mali, prévu demain au Ghana. D'ailleurs, le colonel Assimi Goïta, nouvel homme fort du Mali, est invité à prendre part à ce sommet à Accra. Jusqu'ici, la CDAO a conditionné une levée progressive de ses mesures de rétorsion à la présentation par les autorités maliennes d'un calendrier électoral acceptable pour le retour des civils au pouvoir. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CDAO, est reparti dimanche du Mali sans être parvenu à un accord avec la junte.
Lors d'une conférence de presse, le parti de l'ancien président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, a exigé sa libération immédiate, estimant que son assignation à résidence depuis le coup d'État s'apparente à une détention. Nathalie Barge.
Cela fait exactement 2 mois que le président Roch Marc Christian Kabore n'est plus libre de ses mouvements, a déclaré le président du MPP, Alassane Balassakandé, ajoutant que ses conditions de détention se sont durcies récemment. Il ne peut passer qu'une heure avec ses enfants, n'a pas droit au téléphone et aux visites, a expliqué M. Sakandé, ancien président de l'Assemblée nationale. Après le coup d'État du 24 janvier, M. Kabore avait été placé en résidence surveillée dans une villa ministérielle dans le quartier Ouaga 2000, où il a pu recevoir des dirigeants de son parti et les membres d'une délégation ouest-africaine. Lors d'une visite il y a une semaine, les émissaires ouest-africains se sont entretenus avec lui. La libération de M. Kabore a été exigée par la CDAO, l'Union africaine et l'ONU.
En Guinée, un médecin d'Alpha Condé et son dernier chef de la diplomatie ont été arrêtés après la diffusion d'un enregistrement attribué à l'ancien président intervenant depuis l'étranger dans la politique intérieure, Nani Tetalani.
Dans son communiqué, la gendarmerie guinéenne semble signifier que l'enregistrement a été réalisé à l'insu de M. Alpha Condé. Les propos affirment la nécessité pour son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée, de se mettre en ordre de bataille en prévision d'une grave détérioration de la situation en Guinée, en particulier à cause de la hausse des prix. La gendarmerie affirme qu'Ibrahim Khalil Kaba, ancien chef de la diplomatie, a appelé le médecin personnel d'Alpha Condé, le docteur Bemba Kaba, qui se trouvait alors aux Émirats Arabes Unis. Toujours selon la gendarmerie, Khalil Kaba a demandé au docteur Bemba de recueillir l'avis de M. Condé sur sa succession à la tête de son parti et de l'enregistrer. Le médecin a obéi, puis a transféré l'audio à 2 destinataires, dont Khalil Kaba. Les 2 hommes seront présentés au parquet, déclare la gendarmerie, sans préciser la date de leur comparution. La diffusion de cet enregistrement survient en pleine querelle pour la succession à la tête du RPG, l'ancien parti au pouvoir.
2 attaques survenues mercredi soir dans le centre de la Somalie et revendiquées par les Chebabs ont tué au moins 48 personnes. Omar Hamadou Oufa.
Selon un responsable de la police locale, les terroristes ont mené la première attaque avec un kamikaze et ont tenu prête une voiture chargée d'explosifs devant l'hôpital afin de faire plus de victimes. Cette attaque a tué 2 députés sortants, dont Amina Mohamed Abdi, qui faisait campagne pour sa réélection, ainsi que plusieurs de ses gardes. Après la première explosion, les morts et les blessés ont été amenés comme d'habitude à l'hôpital principal. La deuxième a d'ailleurs eu lieu peu de temps après, devant l'hôpital où des voitures éventrées étaient visibles jeudi. Ces attaques sont survenues quelques heures après une autre à l'aéroport de Mogadiscio, réputé être le site le plus sécurisé du pays. Les islamistes Chebab ont revendiqué ces attaques. L'ambassadrice du Royaume-Uni pour la Somalie a condamné fermement l'utilisation de la violence pour intimider et perturber les élections. Des élections parlementaires sont prévues le 31 mars, après plusieurs reports.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, ce soir, nous retrouvons Nathalie Barge pour la Minute Éco.
En Côte d'Ivoire, la production d'or a augmenté de 7,6% en 2021, atteignant 41,8 tonnes, a annoncé hier le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, lors d'un symposium sur l'activité minière. Le pays possède 9 mines d'or et 2 autres sont en construction. Le secteur minier ivoirien, dominé par le manganèse et l'or, représente 5% du PIB. En République démocratique du Congo, dans l'affaire judiciaire entre Moïse Katumbi et Pascal Beveradji concernant la propriété de NB Mining Africa, la cour d'appel de Gombe a tranché définitivement en faveur de Beveradji, qui avait déjà gagné un procès contre Katumbi en décembre 2020. La semaine dernière, la cour a ordonné la restitution de tous les actifs et fonds saisis. La décision a été contestée par le camp de Moïse Katumbi. Le Centre financier international de Kigali accueille pour la première fois l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux. Des discussions sur la finance durable sont prévues lors de cette rencontre de 3 jours. Le Rwanda a adopté une politique axée sur la croissance verte et ambitionne de devenir une plaque tournante régionale de la finance durable.
Et sans transition, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo dans votre page des sports. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Coup d'envoi ce mercredi des préliminaires des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. 10 sélections entrent en lice un mois et demi après le sacre du Sénégal à la CAN 2021. 0-0 entre les Seychelles et le Lesotho. L'Eswatini a disposé de la Somalie 3-0. Le Soudan s'est imposé 4-2 devant Djibouti. Suite au retrait de l'Érythrée, le Botswana est qualifié d'office pour la phase de groupe des éliminatoires. Il rejoint ainsi les 42 autres sélections qualifiées d'office pour la phase éliminatoire en poule. Les 24 nations qui se qualifieront pour la phase finale se disputeront la succession du Sénégal en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023. Des pépins pour le Cameroun à 2 jours des barrages du Mondial 2022 Zone Afrique. Muninga Malleu, l'ailier camerounais des Young Boys de Berne, a déclaré forfait et a été remplacé par l'ailier du club local de Coton Sport de Garoua, Soyibou Marou, qui va honorer sa toute première sélection. En plus de lui, le milieu de terrain André-Franck Zambo Anguissa, blessé, ne sera pas là pour la double confrontation contre l'Algérie les 25 et 29 mars prochains. Mardi, le portier titulaire André Onana a été victime d'un accident de circulation de voiture entre Douala et Yaoundé, mais a rejoint ses coéquipiers à Douala. Ici, en NBA, les Milwaukee Bucks avec Gianni Antetokounmpo, de retour remis d'une blessure à un genou, ont fait mordre la poussière aux Chicago Bulls, qu'ils ont écrasé 126-98 avec 25 points de leur star grec. Cette probante victoire permet aux Bucks de consolider leur deuxième place dans la conférence Est. En Floride, les Golden State Warriors ont essuyé à Orlando leur troisième revers consécutif face au Magic, vainqueur 94-90. Trae Young s'est distingué dans les rangs d'Atlanta en inscrivant 45 points, permettant à son équipe de s'imposer 117-111 contre les New York Knicks. Toujours ici, aux États-Unis, les gouverneurs républicains de l'Indiana et de Utah ont posé leur veto à des lois visant à interdire aux filles transgenres de participer aux compétitions sportives féminines dans les écoles de leur État. Les auteurs de la loi estiment que cela pose un problème d'équité sportive. Après un examen attentif, je n'ai pas trouvé de preuves étayant ces présomptions, explique Eric Holcomb, qui dirige l'État de l'Indiana dans le Midwest. Politiquement, il serait plus simple pour moi de signer la loi, mais j'ai toujours essayé de faire ce qui est juste, écrit Spencer Cox, gouverneur de Utah, dans l'Ouest, notant que seuls 4 enfants transgenres, dont une fille, sont inscrits dans des clubs sportifs scolaires dans le Utah cette année. Ces arguments n'ont pas touché les parlementaires locaux qui ont l'intention de voter ce vendredi pour surmonter leur veto.
C'était les sports signés Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakidza. Place au dossier du jour. Au Burkina Faso, le MPP, parti de l'ancien président Roch Marc Christian Kabore, exige sa libération immédiate et sans condition. Il n'est pas en résidence surveillée, mais en détention selon son parti. Pour le CDP, parti de Blaise Compaoré, également ex-président du Burkina Faso, les partisans de Roch Kabore sont simplement dans leur rôle. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Deux mois jour pour jour après le coup d'État, Roch Kabore est toujours entre les mains des nouvelles autorités. Pour les partis de l'ancien président, le MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, il n'est pas en résidence surveillée, mais en détention. Alassane Bala Sakande, président du MPP.
Le président Roch Marc Christian Kabore n'étant pas privé de liberté du fait de la justice, le MPP exige par conséquent son élargissement immédiat et sans condition. Le MPP invite pour ce faire tous les démocrates et patriotes épris de paix et de justice à se joindre à lui pour exiger la libération du président Kabore. Résident surveillé où il ne peut passer qu'une heure avec ses enfants, où il n'a pas droit au téléphone, où il n'a pas droit à des visites qu'il aurait souhaitées.
Le MPP est dans son bon rôle, parce que les partisans les plus forts donc, du président Roch Marc Christian Kabore puissent demander donc sa libération.
Boubacar Sanou, ancien député, premier vice-président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de Blaise Compaoré.
Nous avons fait la même chose également avec le président Compaoré, où nous avons demandé à chaque fois que le président Compaoré retourne et revienne au pays, donc rentre d'exil avec l'ensemble des exilés. Et si jusqu'à présent il ne jouit pas de l'entièreté de ses droits, et notamment la mobilité, nous pensons que ceux qui ont pris cette décision mesurent la portée, l'importance de cette décision et l'impact que cela peut avoir, non seulement sur lui-même, mais également sur la nation.
Les organisations de droits de l'homme militent aussi pour la libération de Roch Kabore. Rodrigue Namoano est le président de la CNDH, la Commission nationale des droits humains.
Dans une déclaration en date du mois de février, le 24 février, la Commission a condamné cette détention arbitraire parce que jusque-là, il fait l'objet d'une détention sans aucune base légale. Officiellement, l'ex-président Roch n'a pas fait l'objet justement donc de reproches ou aucun acte donc ne lui a été et notifié. Ça viole les différents engagements au niveau régional et international que nous avons.
En attendant, l'ancien président Roch Kabore n'est toujours pas libre de ses mouvements. Des délégations de la CDAO avaient pu le rencontrer et avaient assuré en son temps qu'il avait bonne mine. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Sénégal, l'armée a lancé une grande offensive qui lui a permis de démanteler les principales bases rebelles de la faction armée du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, dirigée par Salif Sadio. Une action de riposte quelques semaines après que les rebelles aient tué 4 soldats et pris en otage 7 autres. Des Sénégalais interrogés ayant requis l'anonymat apprécient diversement cette offensive de l'armée. Écoutons ce micro-trottoir de notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Je ne vois pas l'intérêt de cette opération de l'armée car pour moi, tout doit se faire pacifiquement. La Casamance fait partie du Sénégal. Nous avons tous des parents là-bas. Certains des militaires qui attaquent ont des parents là-bas. Donc, c'est nous dans nous. Pour moi, aller au dialogue est mieux car cette attaque peut avoir des conséquences désastreuses pour les populations car il peut y avoir des pertes du côté des civils innocents. Je pense que les autorités auraient pu opter pour une autre stratégie pour éviter d'envenimer le conflit.
Il faut d'abord savoir que le Sénégal est un pays souverain qui doit préserver la paix. On peut bel et bien régler le problème de la Casamance parce qu'il n'y a plus de rebelles. Hein? Moi qui habite la Casamance, je peux vous dire que c'est Salif Sadio. Il n'y a que des bandits, c'est pas des rebelles. On peut bel et bien éradiquer sans pour autant négocier avec. Je peux dire ces terroristes, des rebelles, soi-disant rebelles, qui veulent prôner une libération de la Casamance, qui n'est pas possible. Et Je suis pas d'avis que voilà, ce banditisme persiste. Ils ont bel et bien raison d'aller pilonner.
Le problème au Casamance, on doit le régler une bonne fois pour toutes.
Parce que il faut régler le problème de la Casamance une bonne fois pour toutes parce que ça commence à atteindre des proportions inquiétantes pour la souveraineté du pays. Il ne peut pas y avoir de sécession au Sénégal. On ne cautionne pas un massacre ni des exactions, mais il faut reconnaître que l'armée a eu raison d'aller au front car les rebelles ont atteint un niveau et une puissance de feu qui peut les pousser à sortir même de la Casamance et déstabiliser tout le pays.
Limité.
Le conflit dure depuis pas mal de longtemps, hein, depuis 1981 à nos jours. Donc il faudrait à un moment donné soit attaquer. Pour moi, on a trop négocié. À un moment donné, il faut ratisser d'abord. Après avoir obtenu gain de cause, là, il faudrait négocier. Parce que, bon, comme on l'a entendu dans les médias, il y a beaucoup de villageois qui sont partis vers la Gambie pour fuir les combats et autres. Mais à mon avis, puisqu'ils ont ratissé presque largement la forêt, donc autant négocier, puisque l'essentiel a été fait, voilà.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Réunis ce jeudi en Belgique en sommet extraordinaire, les dirigeants de l'OTAN se sont convenus de fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires et vont également protéger ses forces déployées sur le flanc oriental et créer de 4 nouveaux groupements tactiques en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie et en Slovaquie. Gini Kapumbu-Vila s'est entretenu avec Jean-François Seznek, économiste, analyste politique à Atlantic Council.
Mais écoutez, en ce moment, je pense que l'OTAN fait ce qu'il doit faire. Ce qu'elle doit faire, je pense que le président Biden est vu maintenant en Europe comme un leader, qu'il n'était pas vraiment comme ça avant. Et je pense que bon, ils sont sur le bon chemin pour essayer de faire le maximum pour éviter une escalation nucléaire. Donc, je pense effectivement ils ne peuvent pas faire vraiment beaucoup plus que ce qu'ils ne font actuellement.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que la guerre cesse
Écoutez, ça c'est très compliqué. Bien sûr, si je savais, ça serait très bon pour tout le monde. Mmh. Et je pense simplement que une chose qui n'est pas encore faite par l'OTAN, et en fait, je vais peut-être changer ma réponse de tout à l'heure, c'est que ce qu'il faudrait peut-être considérer, c'est voir si on pourrait faire un embargo vraiment complet sur les exportations russes de pétrole et de gaz. Mais ça serait bien sûr une solution qui ferait énormément de mal à l'Europe en particulier et surtout à l'Allemagne parce que 70% de leur gaz vient de la Russie. Mais si on pouvait vraiment limiter la consommation allemande de gaz russe, ça ferait un changement énorme sur la capacité du président Poutine de financer sa guerre.
Jean-François Seznek, économiste et analyste politique à Atlantic Council.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sous la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains. Du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Ici aux États-Unis, Madeleine Albright, la première femme à occuper le poste de secrétaire d'État aux États-Unis, est décédée hier à 84 ans des suites d'un cancer. Née en Tchécoslovaquie, cette ancienne réfugiée juive a d'abord été représentante américaine à l'ONU. Antonio Guterres a rendu hommage à une pionnière et un modèle. Comment a-t-elle marqué la politique extérieure des États-Unis? Nanit Telani a joint Robin Johannem, historien à Minneapolis, dans le Minnesota.
Martin Albright, en général, on peut penser à toutes ces victoires qui dominaient l'actualité pendant la dictature de Bill Clinton. Par exemple, cette fameuse victoire du génocide en Rwanda et la situation en Europe de l'Est, effectivement, concernant les Serbes en Bosnie et tout ça. Et elle a montré de grand courage. Elle a toujours eu une diplomatie un peu solide, bien que ses histoires ont laissé des taches pas très élogieuses sur la réputation de Clinton. Mais en tout cas, elle a été très influente.
Elle a été influente, mais qu'a-t-elle fait exactement sur le plan africain, par exemple?
Je pense plutôt à sa réunion avec Nelson Mandela et autres dirigeants africains. Ils ont eu des tête-à-tête où Madeleine a réaffirmé la position névralgique du continent africain dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique, la position que l'Afrique occupe tout à fait dans les intérêts des États-Unis comme hégémonie.
Et en rapport avec le Rwanda que vous avez déjà mentionné?
Le monde a observé ce genre de massacre entre les Houthis et les Rwanda. Et les Occidentaux se sont retirés de la scène. On a fermé les missions diplomatiques et on a laissé ces gens massacrer les uns les autres. Donc, ça n'a pas été un moment glorieux dans l'histoire des Occidentaux avec le continent africain. De ce fait, c'est la mission diplomatique à Albright. Elle a travaillé, mais ça s'est soldé par une sorte d'échec, quoi, parce qu'on n'a pas pu arrêter le massacre. Sur la RDC, moi, ce que j'ai remarqué, c'est cette relation qui laisse quelque chose à désirer entre Kabila et Clinton, et même pendant la campagne électorale de Hillary Clinton.
De façon générale, quel héritage Madeleine Albright laisse-t-elle?
Elle était une figure représentative de la cause féminine aux États-Unis et un peu dans le monde. Il y a eu ce vent d'espoir pour le féminisme en général aux États-Unis, mais un peu dans d'autres coins de la planète où on faisait un peu plus d'attention au mouvement, aux droits des femmes, à la cause féminine. Moi, je l'ai vue comme pionnière de la cause féminine. Elle a fait école aux États-Unis. Elle a influencé surtout les jeunes femmes. Beaucoup d'entre elles se sont inspirées de sa personnalité politique, ou dit « Ah bon, moi je peux aussi devenir secrétaire d'État ou ministre des Affaires étrangères ici aux États-Unis. » Donc, dans ce sens, elle a fait effort, que ce soit aux États-Unis, à la tête de la diplomatie américaine et aussi aux Nations Unies.
L'analyste Robin Johannem à Minneapolis, dans le Minnesota.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Gisèle Morissin, Lionel Lounanelagahima et Michel Claire Joseph. À la présentation, Eric Mandakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute de nos programmes et à la prochaine.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.